Elle vient d'où? Elle est apparue comment? Bah la vie, celle qu'on voit sur Terre. C'est quoi la vie, au fait?
La vie, c'est un processus. On dit que c'est un processus autopoïétique, ça veut dire un processus qui va s'auto-organiser de manière cyclique. Et ça, c'est la définition la plus basique de la vie. Après, quand on pense à cette définition-là, on pense à la vie au sens général du terme et non pas à la vie d'un individu. Bien sûr que quand on parle d'un individu, on sait que cet individu va naître, grandir et mourir. Et ça, c'est une autre définition de la vie, mais qui est plutôt centrée sur l'individu.
Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode où l'on remonte aux origines de la vie sur Terre. Et pourquoi pas ailleurs, sur d'autres planètes? L'évolution, j'ai bien compris, enfin je crois. Mais la question fondamentale, là, c'est de savoir comment ça a commencé. Tout au début. Toute vie résulte bien d'une vie. Mais le tout premier organisme vivant, c'était qui? C'était quoi? Microsciences, un podcast de la RTS. Blaise Mulhauser est biologiste et directeur du jardin botanique de Neuchâtel. Et hormis les plantes, sa passion, ce sont les microbialites, des cailloux qui nous en racontent beaucoup sur l'origine de la vie. Et alors cette vie sur Terre, ça doit remonter à il y a un moment, non?
On estime qu'elle est apparue il y a 4 milliards d'années, mais évidemment qu'on n'a pas la réponse de l'apparition de la vie dans l'univers. Pour le moment, on a la preuve du vivant que sur la Terre. Et c'est ce qui intéresse les scientifiques, c'est de chercher une preuve de vie ailleurs que sur la Terre.
Bon, on va commencer par la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, notre jeune planète s'est formée. Mais elle était loin d'être aussi accueillante que maintenant. Imaginez une boule chaude, très chaude, issue de collisions avec tout ce qui se baladait dans le système solaire à cette époque. Il lui faut du temps pour se refroidir et pour que les océans se forment. Un demi-milliard d'années environ. Soit. Mais on n'est pas encore en mode plage avec des palmiers et des étoiles de mer. Il n'y a pas d'oxygène. L'atmosphère est saturée en gaz carbonique et d'autres fumées éjectées par l'activité volcanique. Alors comment? À partir d'un caillou fumant qui flotte dans l'espace, on obtient la vie?
Je trouve que c'est presque une question philosophique. Parce que la vie sur Terre, c'est le seul projet qu'on connaisse du vivant. Les hypothèses sont de dire qu'elle peut être arrivée depuis l'espace. Ça, c'est l'hypothèse finalement qui est la plus simple, mais qui résout rien du tout. Parce qu'une fois qu'on aura prouvé que la vie est arrivée de l'espace, la question suivante, ce sera de se dire, mais dans l'espace, elle vient d'où la vie? Donc on n'aura rien résolu du tout. Et puis l'autre hypothèse, c'est de se dire que la vie a pu émerger sur Terre grâce aux conditions physiques qui vont réunir les molécules, les premières briques qui vont construire le vivant, qui vont construire cette vie dont j'ai dit par la définition que c'était un processus autopoïétique, donc quelque chose qui s'organise par lui-même.
Un truc qui s'organise par lui-même. Mais sur Terre, il y a 4 milliards d'années, il n'y a rien. Juste un mélange d'éléments chimiques, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène, et le reste du tableau périodique. Mais les scientifiques n'étaient pas là pour voir la vie apparaître.
Il y a une expérience qui a été faite dans les années 1950 qui nous a permis de comprendre que par la présence de l'eau, de l'énergie sous forme par exemple d'électricité, et de phénomènes météorologiques, hein, comme des éclairs ou de la foudre, et puis une certaine température dans l'eau. Alors bien sûr, il y a aussi besoin de carbone, d'azote, qui sont les éléments primordiaux qui vont s'assembler. Par ces réactions chimiques et électrochimiques, eh bien, les scientifiques se sont rendus compte que des molécules étaient en train de s'assembler, des acides aminés. Et c'est par cette première expérience fondamentale qu'on s'est dit « Ah ben voilà, la vie peut peut-être émerger de réactions électrochimiques importantes. »
Et c'est donc dans ce que les scientifiques ont appelé la soupe primitive que se sont formées les pièces de puzzle, qui s'assembleront pour donner un truc vivant. Mais ce n'est pas encore la vie. Ces pièces de puzzle, par un jeu d'attraction et de répulsion, s'organisent pour former une ancêtre de bactéries, une première cellule. Un truc qui a un intérieur avec des molécules qui se répliquent et un extérieur protégé par une paroi. Une structure qui se délimite de son environnement extérieur. Mais ces ancêtres de bactéries, si je comprends bien comment elles auraient pu se former, je ne vois pas comment on peut déterminer quand elles se sont formées. Ça m'échappe complètement.
Moi aussi, je vous rassure. Mais on a quand même des empreintes du vivant, des empreintes fossiles. Alors il ne faut pas imaginer que c'est une coquille d'escargot fossile ou une vertèbre de dinosaure. Non, ce sont les empreintes d'une activité qui vont marquer la pierre par des traces minéralogiques. Ça peut être des dépôts de fer, de soufre ou bien du carbonate, donc du carbone, l'élément de base du vivant. Et maintenant que la communauté scientifique a accepté que les plus anciennes traces d'activité de vie découvertes dans des pierres datent d'il y a 3 milliards 480 millions d'années, donc ce sont les traces prouvées d'activité de la vie sur Terre, mais en même temps, on dit que la vie débute il y a 4 milliards d'années, c'est surtout par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire de la Terre, la présence de l'eau notamment, qui apparaît assez vite après la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, et l'atmosphère qui s'organise, des aspects justement de l'environnement de la vie qui nous permettent de faire remonter ce bond de quand même 500 millions d'années pour dire que la vie a commencé il y a 4 milliards d'années. Mais ça reste pour moi autant une abstraction que pour vous.
Donc, en gros, les scientifiques ont retrouvé des cailloux façonnés par les premières formes du vivant.
Les bactéries, aujourd'hui, elles se développent encore. Elles continuent à laisser des traces sur les sédiments, même à construire les sédiments. C'est pour ça qu'on parle de bactéries maçonnes, c'est que dans leur activité, elles réussissent à produire typiquement du calcaire qui va s'accumuler. Donc elles vont construire ce qu'on appelle les microbialites, c'est-à-dire lithos, la pierre, microbia, c'est le microbe. Donc les microbialites, ce sont vraiment les résultats du façonnage d'un environnement souvent aquatique. Ça peut être d'eau douce, mais ça peut être aussi marin. Et ces microbialites, elles continuent à être construites aujourd'hui. Donc, on peut avoir ce type de traces sur toute la Terre, dans tous les continents. Par contre, quand on parle des premières traces de vie, là, elles sont liées à des organismes très particuliers qui auraient déjà disparu de la Terre aujourd'hui. Donc on parle de lignées fantômes, de bactéries qui avaient ces cycles de vie extrêmement particuliers.
Oui, les chercheurs et les chercheuses ont cherché et cherchent encore des fantômes de bactéries. Des fantômes peut-être, mais des fantômes qui à un moment donné ont vécu sur des cailloux et mangé du caillou. Et le but, c'est de débusquer les restes de repas.
C'est effectivement les déchets de l'activité du vivant, l'activité bactérienne. Donc on pourrait dire que c'est des restes de repas, mais ça peut aussi être des restes de respiration, ou bien ça peut être aussi des restes finalement des bactéries elles-mêmes qui meurent un jour et puis qui vont se décomposer. Mais comme dans leur organisme même, elles auront des composés particuliers de fer, de soufre ou d'autres, eh bien l'accumulation de ces tapis bactériens feront qu'il y aura un précipité qu'on retrouvera dans la pierre en l'analysant de manière minéralogique.
On pourrait peut-être aussi retrouver des restes de construction, des mini-civilisations de bactéries fantômes.
Les activités bactériennes fossilisées les plus simples, ce sont des constructions faites par les bactéries de couches laminées les unes sur les autres, qu'on appelle des stromatolites. Et on peut en trouver des stromatolites vivants, c'est-à-dire que l'édifice a été construit par les bactéries depuis des milliers d'années et il y a toujours au sommet de ces stromatolites des tapis bactériens vivants. Ça, c'est une des preuves peut-être les plus faciles d'accumulation des matériaux faits par les bactéries.
Mais si les bactéries sont encore capables de modifier notre paysage, comment diable sait-on que les traces que l'on retrouve datent bien de l'époque où la vie est apparue sur Terre ?
C'est toute l'histoire de la paléontologie. Donc la paléontologie, c'est la science qui va étudier les empreintes fossilisées. Elle a commencé avec des choses assez simples, qui sont justement la découverte d'empreintes fossiles de feuilles, la découverte de crânes, donc des choses qui sont très proches de nos individus mêmes. Donc c'était assez, je dirais, facile de comprendre qu'il s'agissait d'êtres vivants. Mais plus on a remonté dans l'histoire du vivant, plus la vie, on va dire, a des formes très simplifiées et surtout microscopiques. La vie commence avec l'histoire des microbes. Et les microbes, ce sont des êtres très petits, de l'ordre du micron, donc des organismes que l'on ne peut pas voir, et surtout qui n'ont pas de structure dure. C'est des organismes mous, quand ils meurent, ils vont se décomposer et il n'y a aucune trace qui va rester, par exemple, dans un dépôt marin ou dans une sédimentation quelconque. Donc, pour prouver que c'est la vie qui a laissé des traces, eh bien, il faut faire appel à la chimie. C'est la chimie et la minéralogie qui vont nous donner les indications de ces activités biologiques d'il y a 3,5 milliards d'années, qui sont des activités de microbes, de bactéries, dont on connaît encore le fonctionnement aujourd'hui. Et c'est grâce à ces réactions chimiques qui restent dans la pierre qu'on arrive à dire, oui, là, il y a eu une activité de la vie.
Et une fois que la vie est apparue, elle a donné vie à d'autres vies. Avec les traces chimiques, on a retrouvé ses débuts de vie. Et on a même compris qu'il y a un ancêtre commun à toutes les formes de vie actuelles sur Terre.
Lucas est l'ancêtre primaire de toutes les formes de vie actuelles sur Terre. Ça ne veut pas dire que ça a été le premier organisme vivant installé sur Terre, mais dans l'histoire du vocabulaire que tous les êtres vivants partagent, notamment le vocabulaire d'acides aminés, le vocabulaire des gènes et autres, on partage tous ce même langage entre les êtres vivants. Et l'hypothèse, c'est qu'on descend tous d'un ancêtre primaire qu'on a appelé Luca.
Luca, ce n'est pas un nom choisi par ses parents. Cela signifie « Last Universal Common Ancestor », le dernier ancêtre commun universel. Le fait est que Luca, ses parents et ses grands-parents ont laissé des traces, même imperceptibles. Et ces traces, on sait où les chercher. Moi, ça m'hallucine.
Oui, donc les premières traces fossiles d'activité du vivant, on les a trouvées dans des contextes de volcanisme, dans des sources hydrothermales proches des volcans en activité. Donc les cycles de vivant primitif se sont plutôt axés sur des éléments comme le fer et le soufre. Bon, le carbone est toujours là, l'oxygène et l'hydrogène sont toujours importants. Il y a aussi un autre milieu qu'on a beaucoup étudié, qui sont les cheminées hydrothermales sous-marines. Donc on est dans un milieu aquatique, marin, mais avec un environnement très très chaud. Et on sait maintenant, on le connaît bien, que certaines bactéries peuvent vivre à plus de 100 degrés.
En regardant une carte du monde, je me demande où iraient les scientifiques pour chercher ces restes de bactéries primitives.
Alors, on a des traces en Australie. Là, c'est vraiment des terrains géologiques qui ont entre 4 milliards et 3,5 milliards d'années. Aussi en Afrique du Sud, il y a quelques endroits aussi vieux dans lesquels on pourrait trouver ces empreintes. Possiblement aussi au Groenland, il y a des terrains très anciens. Alors la difficulté, c'est que tous ces terrains-là, ils ont vécu des événements de l'histoire de la Terre qui ont pu transformer les pierres, ce qui fait qu'il faut des conditions assez exceptionnelles de conservation pour qu'on retrouve ces traces de vie. C'est pour ça que c'est, sur Terre, très compliqué de trouver des terrains aussi vieux.
Surtout que depuis 4 milliards d'années, les continents ont dû bouger.
On n'a pas de roches vieilles de 4,5 milliards d'années. Même si on pense que la Terre, justement, est née il y a 4,5 milliards d'années, des roches de la naissance de la Terre, il n'en existe plus.
Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ces premières bactéries qui s'évertuent à vivre dans un environnement, somme toute, assez hostile. Rappelez-vous, il y a des océans, des volcans, de la Terre, et pas un seul bar à l'horizon. Juste une planète inerte et des dangers qui guettent ces bactéries.
Finalement, le fait de devoir toujours s'adapter, ben, ça nous donne la solution de quoi ? De la loi sur l'évolution. Donc, on parle beaucoup de la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas une théorie, c'est une loi qui est intrinsèque au vivant, et pas seulement au vivant sur Terre, mais au vivant partout dans l'univers. Donc même si on n'a pas de preuves qu'il y a des vies ailleurs dans l'univers, si ces vies existent, elles doivent sans cesse s'adapter aux changements environnementaux qui sont permanents.
Et à force de se multiplier, les bactéries évoluent pour survivre. Mais ce qui est parfaitement dingue, c'est que sans le savoir, elles transforment la Terre en un paradis pour les autres formes de vie.
Les cyanobactéries, c'est elles qui ont révolutionné le vivant. On pense qu'elles sont apparues il y a 3 milliards d'années, mais la vraie révolution a débuté il y a 2,5 milliards d'années. On appelle cette révolution la grande oxydation. Pourquoi ça? Parce que ces cyanobactéries ont inventé une manière de produire de l'énergie à partir de l'eau, de la lumière et du gaz carbonique. Et le déchet de leur production d'énergie, c'est de l'oxygène, du dioxygène. Finalement, ces bactéries, elles se sont bien multipliées et cet oxygène est devenu si important qu'il a été libéré dans les mers, puis dans l'air, pour créer une couche atmosphérique extrêmement importante en oxygène. C'est l'oxygène qu'on respire aujourd'hui.
Eh oui, les cyanobactéries ont pollué notre atmosphère. Une pollution bienvenue puisque ce sont leurs déchets que nous respirons. Cette apparition de la vie sur Terre comporte encore des zones d'ombre. Et puis, c'est tellement humain, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si la vie est apparue sur notre planète à nous, dans des conditions assez spartiates, elle aurait pu apparaître aussi ailleurs, sur des planètes tout aussi hostiles que la nôtre il y a 3,5 milliards d'années. Mars, par exemple.
C'est des planètes sœurs, hein, Mars et la Terre. Donc elles ont au début évolué un peu de la même manière. Il y avait énormément de mouvements d'astéroïdes qui percutaient ces deux jeunes planètes. Assez rapidement, autant Mars que la Terre ont eu de l'eau liquide à leur surface. Donc l'hypothèse est de se dire, bah, puisque il y a 4 milliards d'années, les deux planètes étaient à peu près semblables. Bien sûr, il y a des différences. On peut se dire que la vie a débuté au même moment et de la même manière sur les deux planètes. Ça, c'est l'hypothèse que les chercheurs vont essayer de résoudre en partant chercher des traces de vie fossiles sur Mars.
Mais du coup, il faut y aller sur Mars.
La mission ExoMars, c'est une mission qui part à la recherche d'une trace de vie ailleurs que sur Terre. La mission aurait pu partir sur la Lune, mais comme la Lune est une espèce de résultat d'un choc entre un astéroïde et la Terre, et bien finalement la Lune est presque trop terrienne pour qu'on puisse dire que la vie a démarré sur des planètes différentes et au même moment.
Et surtout, ça aurait été bête d'appeler la mission ExoMars si elle était partie sur la Lune. Le destin de la Lune et de la Terre sont étroitement liés, trop étroitement. Elles sont issues toutes deux de collisions tout au début de leur vie. Donc, du point de vue de la recherche de la vie ailleurs que sur Terre, Mars, la jumelle rouge de notre planète bleue, est intéressante. Elle est somme toute assez proche de nous. Eh bien, partons donc débusquer les traces d'organismes suceurs et constructeurs de cailloux sur Mars.
Et c'est parti, on croise les doigts pour ExoMars 2016 qui s'envole pour un voyage de 7 mois dans l'espace.
Déjà, sur Terre, ce n'était pas facile de savoir où chercher. Alors, un robot sur une planète rouge.
Sur Mars, ça sera plus facile parce qu'on dit que Mars n'a pratiquement pas évolué géologiquement depuis justement des milliards d'années. Donc c'est pour ça que la mission ExoMars, elle va se poser sur un site qui est vieux de 3,5 milliards d'années pour aller chercher les traces de vie qu'on sait être présentes sur Terre.
Ouais. Mais si ça se trouve, il n'y a rien.
Une hypothèse scientifique, elle est là pour poser un cadre au départ. Et puis je pense que les scientifiques seront heureux de se laisser surprendre par des découvertes. Si on peut déjà prouver qu'il y a eu des traces de vie sur Mars, ça sera déjà une partie de l'hypothèse à laquelle on aura répondu. Mais peut-être que l'hypothèse des chercheurs au départ se révélera totalement fausse parce qu'on sera ouvert à toute découverte.
Sur Terre, l'apparition de la vie a nécessité de l'eau. Chacune de nos cellules est gorgée d'eau et porte en elle ce souvenir lointain de notre passé sous-marin. Mais peut-être qu'ailleurs, l'eau n'a pas la même importance.
C'est pour ça qu'il faut essayer de s'extraire de notre propre planète pour imaginer les possibilités. Et je pense que les possibilités, elles sont extraordinairement larges et diversifiées. Sauf que c'est en apprenant petit à petit comment l'univers fonctionne qu'on pourra peut-être s'ouvrir à d'autres hypothèses sur une espèce de forme de vivant qui n'a pas besoin d'eau.
Sur une planète rouge, des réponses nous attendent. Et peut-être nous faudra-t-il passer par des projets pharaoniques pour que les humains et les humaines comprennent que nous ne sommes peut-être pas les formes de vie les plus intelligentes de l'univers.
Tous les organismes sont liés les uns aux autres, toutes les espèces, hein, qu'on soit bactéries, virus, champignons, hommes ou arbres, nous avons des relations obligées entre les organismes. Donc le sommet de l'évolution n'existe pas. Nous sommes dans un moment de l'évolution où un certain nombre d'espèces cohabitent ensemble. Et si on se retrouve dans 5000 ans, que vous et moi, on sera très étonné de voir ce qui existe. Et je pense qu'on se rendra compte qu'on n'a plus notre place sur cette planète.
Si votre place sur cette planète vous interpelle, n'hésitez pas à nous en faire part sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Si cet épisode et ce podcast vous plaisent, partagez-les sur vos réseaux sociaux préférés. Et dans la cellule de Microsciences, il y a Camille Dupont-Laït et Grégoire Moll, coproductrice et bouffée d'oxygène perpétuel, Andrea Glanville, assistante de production, responsable des activités catalytiques, Jérôme Nussbaum, réalisateur et habilleur musical qui insuffle à chaque épisode son univers, et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique et descendante de micro-organismes.